Vous êtes bien sur l'émission Ça part de là, où je reçois Cyril Holt lors du festival Paul va au cinéma. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez pourtant sûrement déjà entendu son travail dans Au revoir là-haut ou Mandibule récemment. Partons donc à la découverte du métier de mixeur son. Bonne écoute à vous. Eh bien, bonjour Cyril Holtz, bienvenue sur Ça part de là. Je suis contente de vous recevoir pour représenter un petit peu un métier de l'ombre du cinéma. Déjà pour commencer, quel a été votre parcours d'études pour devenir ingé son, mixeur son ?
Alors, paradoxalement, j'ai commencé par des études qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. J'ai fait une fac d'économie à Paris qui ne me menait naturellement évidemment pas à des métiers du cinéma. Mais ça m'a permis de m'ouvrir à différentes choses et de me laisser surtout le temps d'aller beaucoup au cinéma, d'aller dans les médiathèques, d'écouter et de voir beaucoup, beaucoup de choses et de m'intéresser à beaucoup de choses. Donc j'étais dans une phase d'éveil. Et au fur et à mesure est née en moi l'envie de faire du cinéma. J'ai eu une démarche assez candide. Arrivé en maîtrise, où je me suis dit, il faut quand même que je choisisse ce que je ferai de ma vie. Je me souviendrai toujours, je suis allé au CIDJ, quai Branly, et j'ai vu toutes les formations possibles pour quelqu'un qui avait mon parcours pour faire un métier du cinéma. Il y avait deux possibilités, une voie, on va dire, un peu plus scientifique, qui était Louis Lumière, et une voie plus ouverte à des parcours comme le mien, qui était la FEMIS. Et je me suis lancé un peu à corps perdu dans la préparation du concours de la FEMIS.
L'économie, c'était juste une suite logique, c'était un parcours facile, ou c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait au départ ?
Non, ça ne m'intéressait pas du tout, soyons honnêtes. Non, je me suis laissé porter. Je savais pas trop quoi faire en sortant du bac, j'avais surtout envie de faire plein de choses à côté, et puis je me suis dit j'ai eu un bac B qui était à l'époque le bac économie, et puis je me suis dit je verrai bien où ça me mène. Et puis au moment où j'ai commencé à me rendre compte que ça menait vraiment quelque part, en tout cas dans une voie dans laquelle j'avais vraiment pas envie d'aller, je me suis dit là il faut vraiment absolument que je sache et que je fasse quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie.
Et du coup, le son, ça a été vraiment un déclic à ce moment-là, ou ça avait déjà une place dans votre vie auparavant ?
Alors, ça avait aucune place dans ma vie. Il y a plein de gens, quand ils vous racontent leur parcours, qui disent que depuis longtemps, ils cultivaient cette... Et ce qui est étrange, c'est que moi, j'étais vraiment intéressé par ça. J'avais une espèce de curiosité par rapport au son, au cinéma. Et toujours aujourd'hui, je me dis, mais comment j'en suis arrivé à cette idée ? Peut-être il y avait un petit côté fétichiste pour l'outil, notamment du mixage, où j'aimais bien, on va pas se le cacher, j'aimais à la fois l'outil parce que les petits boutons et tout ça, ça me fascinait, mais pas que, j'avais aussi une fascination pour la façon dont on arrive à procurer des sensations et des émotions au cinéma d'une façon qui est moins connue par le public que le média de l'image. Ça m'intéressait de passer par ce biais-là, qui est un petit peu plus insidieux, un petit peu moins spontanément accessible aux gens.
Et du coup, avant la FEMIS, vous avez déjà créé des choses, ou c'est vraiment à partir de la FEMIS que vous êtes mis dans la création ?
C'est à partir de l'idée de la FEMIS que j'ai commencé à créer des choses. Dès que j'ai su que c'était ça, que ça me correspondait, qu'il fallait que je l'aie, que ça serait la condition de la réussite de ma vie, dès là, j'ai commencé à essayer d'imaginer des petits scénarios de bandes sonores, et à essayer de m'initier aux outils et aux moyens d'expression sonore dans le cinéma.
C'était une évidence que c'était le cinéma et pas la radio ou autre chose.
Ouais, c'était une évidence. Là encore, je ne sais pas trop pourquoi. Sans doute là, pour le coup, parce que j'allais beaucoup au cinéma à cette époque. Mmh. Et que toutes mes premières grandes émotions de cinéma, je les ai eues à cette époque et que ça m'a guidé naturellement vers ça.
Et du coup, il n'y a pas eu un film déclic particulier, c'était vraiment votre expérience du cinéma. Et pour vous, la salle, c'est d'ailleurs très important, c'est une question que je me demandais.
Ah, c'est hyper important. Non, c'est hyper important parce qu'on a tendance à l'oublier, même si c'est une évidence, que la salle, c'est un lieu et un moment de partage entre des gens qui ne se connaissent pas, mais qui partagent la même émotion en même temps. Et ça, c'est quand on regarde un film chez soi, même avec ses proches, ben, c'est des gens qu'on connaît, c'est moins couvert, c'est moins protégé, on peut faire ce qu'on veut à côté, on peut manipuler son téléphone. Dans une salle de cinéma, ça fait mauvais effet. Donc, le cinéma est un lieu et un moment privilégié, protégé, encadré, dans le noir. On est là pour ça.
J'avais pu étudier des chercheurs qui disaient que la salle, elle permettait aussi un dispositif hypnotique. Est-ce que vous pensez que le son, ça fait partie un des paramètres de cette forte forme d'hypnose où on est vraiment
absolument,
plongé
absolument. C'est comme, alors c'est pas comparable totalement, mais c'est comme un livre. Un livre, c'est un voyage. Alors un livre vous oblige à fabriquer des images et des sons par vous-même, alors que un film vous les donne à voir et entendre. Mais c'est presque un rapport intime entre un film, un objet et les spectateurs. Donc, c'est une forme, si on se laisse emmener, ouais, c'est un voyage et on ne voit plus rien d'autre, on est dedans. Alors, ce terme très à la mode, immersif, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'on est avec le film, on développe une relation intime à un film. Et bon, c'est vrai qu'on a tous régulièrement des souvenirs d'émotions particulières au cinéma. Pour moi, les moments d'émotion que j'ai eus chez moi en voyant un film sur ma télé sont plus dilués. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses, mais j'ai des moments, des souvenirs vraiment mémorables de sensations au cinéma et qui sont liés au fait que j'ai vu ces films et entendu ces films dans une salle de cinéma. Et je sais dans quelle salle et je sais... Voilà, on sort du monde pour aller dans d'autres mondes. Et c'est un voyage.
Et du coup, pour vous revenir un petit peu à votre formation, quand on arrive à la FEMIS et qu'on n'a pas étudié le cinéma avant, est-ce que c'est facile de s'intégrer ? Et est-ce que vous êtes senti poussé par des proches ou par des professionnels ?
Ouais, par des proches. Moi, j'avais personne dans ma famille qui avait quoi que ce soit à voir avec le cinéma. Mais une fois qu'on est dedans, déjà, moi, j'ai un souvenir, c'est de l'émerveillement. C'est-à-dire que j'étais comme un gosse. Comme un gosse dans un immense magasin de jouets. Et je me disais, ça peut être ça, les études. Donc, puisque moi, j'avais l'habitude voilà, de bachoter vaguement pour avoir mes partiels. Et là, pour moi, c'était juste une découverte perpétuelle et une sensation de... J'étais comme un dingue, vraiment. Cette école, pour moi, c'était...
Et après la formation, c'est facile de trouver des débouchés ? On est guidé par nos enseignants ou
Ça se fait naturellement. Je pense que, oui... cette école vous donne les moyens de rencontrer les gens, vous prépare à apprendre. On ne sort pas de la FEMIS, on n'est pas un professionnel quand on sort de la FEMIS. Mais on est disposé à le devenir. Et oui, moi ça m'a paru, mais j'étais un peu candide, j'étais un peu naïf sans doute, mais je me sentais prêt à apprendre, vraiment. Je sentais que voilà, on m'avait donné ce qu'il fallait pour que je saute sur les occasions qui se présentaient à moi. Donc, j'ai travaillé sur énormément de courts-métrages. Et puis, quand quelqu'un a eu le courage de me proposer mon premier long-métrage, et finalement, je n'ai pas trop pensé. Je me suis jeté un peu dedans, corps perdu. Ça a bien fonctionné. Et voilà, et après, ça s'est enchaîné. Je saurais même pas dire comment, j'avais tellement envie. Donc, que les gens peut-être le sentaient, je sais pas.
Il y a certains mixeurs français aussi qui aiment bien voyager à travers le monde pour tester différents cinémas. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intriguerait ou...
Moi, finalement, c'est pas un métier qui m'a apporté beaucoup d'exotisme parce que j'ai assez peu voyagé à l'étranger, une ou deux fois, enfin plusieurs fois, on va dire, en Angleterre, à Londres, où j'ai été mixé là-bas, quelques fois en Belgique, mais en dehors de ça, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais il faut dire qu'on a une politique de financement du cinéma en France qui est très avantageuse. Donc on fait beaucoup de films en France, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ça, parce que c'est définitivement un pays de cinéma, ce que nos voisins européens n'ont pas forcément la chance d'avoir. Et au cinéma, aux États-Unis, c'est très particulier parce que c'est très syndiqué, donc c'est difficile en tant que professionnel d'aller travailler là-bas pour des mixeurs, par exemple. C'est pas valable pour tous les postes, mais c'est très vrai pour les mixeurs. Donc, on va dire, il y a des impossibilités presque formelles d'aller travailler, par exemple, aux États-Unis. Un réalisateur américain a en plus tout ce qu'il faut sous la main et des professionnels terriblement compétents pour ne pas devoir aller chercher à l'étranger leur technicien. Ce qui est moins le cas, par exemple, pour les chefs-op, où là, il peut y avoir un intérêt parce qu'ils cherchent quelque chose de particulier. Chez les mixeurs, c'est beaucoup moins fréquent. Je connais quasi pas de mixeurs qui ont fait carrière, j'en connais pas même, qui ont fait totalement carrière aux États-Unis, par exemple. Qui ont eu des expériences là-bas, oui, mais pas qui ont mené leur vie de mixeur aux États-Unis. Mais bon, ça me va très bien. On a une façon, une approche du son en France qui me paraît très pertinente et en plus passionnante. Et donc voilà, non, pas beaucoup de voyages en tout cas, mais les voyages dans les films me suffisent.
Et cette approche française, vous sentez qu'elle se développe chaque année un petit peu plus?
Je ne sais pas si elle fait des émules à l'étranger, mais pour avoir travaillé avec, pour le coup, des réalisateurs qui ont travaillé beaucoup aux États-Unis, où beaucoup reconnaissent une certaine efficacité à l'approche française. C'est-à-dire assez, en même temps, assez transversale. C'est-à-dire qui n'est pas aussi compartimenté qu'aux États-Unis, où le travail est très segmenté, il y a des mixeurs qui sont spécialisés sur les effets sonores, d'autres spécialisés sur les dialogues, etc. Nous, en France, on a une approche beaucoup plus transversale. Un mixeur, il va mixer tous les éléments sonores d'un film. Mais bon, par exemple, à Londres, c'est une bonne synthèse des deux systèmes, hein, la rigueur un peu à l'anglo-saxonne, et en même temps une espèce de souplesse à la française. Donc je pense que finalement ça diffère pas trop, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ça diffère pas trop du système à la française.
Et du coup vous faites partie vraiment de la phase finale, vous, d'un montage d'un film, enfin d'une conception de film. Est-ce que ça vous arrive quand même de faire partie parfois du tournage ou de pouvoir discuter du montage?
Alors, ça m'arrive d'être présent sur un tournage, mais c'est plus pour rendre visite qu'autre chose. Ou pour, en revanche, le dialogue avec l'ingénieur du son est évidemment important. On ne le développe pas autant qu'on devrait et qu'on devrait vraiment... La communication devrait être un peu mieux développée entre les différents départements, en tout cas entre les différentes étapes du son au cinéma. Et on ne le fait pas assez, je le regrette, mais on est tous responsables de ça. Évidemment, il y a deux, on va dire, deux grandes étapes clés dans la fabrication d'un film. Il y a le tournage et ce qu'on appelle la post-production. Moi, c'est la post-production. Donc évidemment, le montage son et le montage du film en lui-même, c'est-à-dire l'image, font partie de la post-production. Donc là, mon rapport est beaucoup plus étroit avec le montage et le montage son.
Et à force de travailler dans ce secteur-là et de l'étudier, vous avez... enfin, pour vous, c'était vraiment évident que c'était le son. Il n'y a pas eu d'autres milieux qui vous ont intrigué ou...
Non, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'image, mais parce que ça fait longtemps que je fais de la photo, mais pas de la photo animée, enfin pas de la photo cinéma, de la photo. Pour moi, ça, c'est un centre d'intérêt. Ouais. C'est quelque chose que je ne fais pas professionnellement. Mais j'adore ça. Et ça me va très bien de le faire comme je le fais. Mm-hmm. Les autres métiers du cinéma auxquels on nous forme un petit peu, notamment à la FEMIS, où la première année est une année, on va dire, un tronc commun, où on aborde tous les différents métiers du cinéma. Donc, m'intéresse énormément. Mais je savais dès le début et je... Et c'est vraiment le son et le mixage en particulier qui m'intéressent. Donc je suis quand même très spécialisé. Et non, j'ai jamais songé à faire autre chose. J'ai, Je peux même dire que j'ai jamais eu envie. En revanche, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'être en relation avec, d'avoir des discussions et un dialogue, un véritable dialogue constructif avec un réalisateur et d'autres membres de l'équipe d'un film. C'est-à-dire, évidemment, le montage est particulièrement intéressant parce que c'est là où le film se construit vraiment.
Mais du coup, quand on sort de la FEMIS, on n'est pas obligé d'avoir un carnet d'adresses immense pour réussir. C'est plus la multiplicité des tournages, enfin des projets qui va compter.
Ouais, alors étrangement, les choses se font quand même assez naturellement. Alors, on rencontre déjà des professionnels à la FEMIS, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. On apprend à se rendre disponible et à s'ouvrir et à saisir les opportunités, je pense. Ouais. Et donc, quand on sort de la FEMIS, ouais, on bondit sur les occasions de commencer à faire ses preuves, de s'engager sur des projets, de s'engager en général, de montrer son implication. Et moi, juste en sortant de la FEMIS, j'avais juste soif de faire des choses, quoi. Ce que j'ai fait, et évidemment, je ménageais pas mes efforts. Et c'est un petit milieu. Donc, ce que je dis souvent aux gens qui veulent entreprendre des études de cinéma, c'est que il faut être au bon endroit au bon moment, et pour être au bon endroit au bon moment, il faut être là tout le temps. Donc voilà, moi je faisais tout pour faire le maximum de choses, j'étais presque boulimique, et voilà, et au bout d'un moment, on finit par vous connaître et se dire ah, le petit mec, okay. Et voilà, et puis après il y a quelqu'un qui a le courage de vous faire confiance, et après les choses s'enchaînent. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est sans doute, c'est dur de dire ça, mais c'est dur de dire que c'est plus dur en ce moment, je pense.
Ok. Ouais. Et du coup, votre métier, il m'intrigue un petit peu, parce que vous pouvez passer d'un film comme Irréversible à Vaillante récemment. Comment on fait pour passer d'un film
si
différent ?
C'est mon grand bonheur, c'est de ne pas avoir été catalogué à un type de film. Et passer d'une comédie à un film d'épouvante ou d'un film d'une noirceur incroyable à un film très léger ou d'un très bon film très ambitieux à un très mauvais film. Et paradoxalement, les films qui ne s'avèrent pas formidables vous laissent parfois des très bons souvenirs. Enfin, ce perpétuel changement, ce recommencement systématique, et parfois éprouvant, mais aussi très, très vivifiant, quoi. C'est-à-dire que, et puis c'est une façon de se remettre, de ne pas rester dans sa zone de confort tout le temps. Non, j'adore ça. Et franchement, ça m'aurait vraiment peiné qu'on dise Cyril, il fait que des gros films d'action, ou il fait que des comédies, ou que du film d'auteur. Et paradoxalement, je pense que c'est marrant, ils le diront jamais. Un réalisateur qui, par exemple, très qualifié, très typé auteur, ce qui va l'intéresser chez vous, c'est le fait que vous fassiez des gros films d'action, et réciproquement.
Ok.
C'est pas uniquement du snobisme, c'est le fait de savoir que vous pouvez faire d'autres ouais. choses que vous... Et que du coup, il va pouvoir peut-être tirer de vous quelque chose qui attise sa curiosité.
Et qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on reçoit un prix ? Est-ce qu'on se sent enfin validé, on va dire, en quelque sorte, ou la vie continue, quoi ?
Non, la vie continue, honnêtement. Ça fait plaisir pour les proches, ouais. Parce qu'on est enfin reconnu que c'est un métier sérieux. Et que, voilà, y a la renommée fait évidemment plaisir, on ne va pas bouder son plaisir. Ce qui m'a le plus marqué positivement, c'est le jour où j'ai vu, pour la première fois, l'affiche d'un film que je venais de mixer, mon premier film, dans les rues de Paris. Et je me souviens, je sortais de mixage, c'était un mixage de nuit en plus, j'étais crevé, il était très tôt le matin, je ne sais plus, 6-7 heures, ou 5 heures, je ne sais plus, et dans Paris, une journée de printemps, comme ça, j'ai vu les affiches du film, et là, ça m'a fait un truc. J'étais fier, quoi. Ça c'est chouette, ouais.
C'était pour quel film, du coup ?
Ouais, c'est mon premier film, ça s'appelait Select Hotel, c'était un petit film, hein, c'était... mais quand même, il n'y avait pas... Paris n'était pas constellé d'affiches, mais j'en ai vu quelques-unes, Et ça m'a vraiment fait quelque chose, ouais. Ça m'a... Et même maintenant, quand je vais au cinéma avec des proches qui sont pas du tout dans ce domaine, ouais, même quand on va voir un film sur lequel j'ai pas du tout travaillé, je me suis dit, d'une certaine manière, je participe à ça. Et les gens qui sont à côté de moi vont avoir des émotions, etc., pour un truc que j'aurais pu faire. Ouais. Donc, ouais, non, c'est une super sensation, ça, ouais.
Et je me demandais, est-ce que vous êtes une personne qui vous fixe des objectifs? Est-ce que vous vous fixez des nouveaux défis à travers votre carrière? Ou c'est une question que vous ne vous posez pas vraiment?
Je ne le formalise pas comme ça. J'ai des envies, par exemple, j'ai l'envie de travailler avec certains réalisateurs, j'ai l'envie ou le regret de ne pas avoir travaillé sur certains films, parce que je me sens des affinités avec le film ou avec la sensibilité du réalisateur. Il y a des choses comme ça, mais je me fais pas de plan, je suis pas du tout. Je crois beaucoup en l'instant, c'est pour ça que je fais de la photo, je pense, c'est que je crois aux alignements des planètes, je prends les choses un peu comme elles viennent, tant que j'ai envie, tant que j'ai du plaisir, je me dis que je trouve les ressources pour aller là où je dois aller. En revanche, en mixage, dans la pratique même de mon métier, je sais beaucoup plus, là j'ai des objectifs, je sais où je veux aller. Et c'est peut-être la chose la plus dure quand on commence, de ne pas aller dans des voies sans savoir où on veut et où on doit aller.
Et aujourd'hui, c'est encore vous qui démarchez ou c'est les personnes qui viennent vous
Ah
démarcher plutôt?
non, un technicien ça démarche très rarement. Moi je ne démarche jamais. On me donne le privilège, on me fait la faveur de venir me chercher, mais parce que c'est un petit milieu aussi et que ça fonctionne comme ça. En fait, c'est soit les réalisateurs, soit les productions, soit je suis recommandé par un autre technicien, soit. Mais il y a vraiment un truc très de famille, entre guillemets. Il y a beaucoup, la fidélité joue aussi, parfois, dans certains cas, et les envies. Ça compte énormément. Un réalisateur peut avoir envie de changer de technicien.
Moi, j'avais peut-être juste une petite question. Du coup, le fait que vous travaillez beaucoup dans l'ombre et que vous ne soyez pas forcément extrêmement reconnu, on va dire, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérange absolument pas? Ou il y a eu des fois où ça vous a quand même peut-être pas vexé, mais...
Non, ça me dérange absolument pas. Ça fait partie du truc. Évidemment, la reconnaissance de mes pairs et des gens avec qui je travaille, elle est très importante pour moi, parce que c'est aussi ce métier fonctionne là-dessus. Si un réalisateur ne vous reconnaît pas ou ne vous connaît pas tout simplement, on a peu de chances de travailler avec lui. Et de mes confrères aussi, c'est-à-dire ça me fait toujours plaisir quand un confrère, un autre mixeur, m'envoie un petit mot pour me dire j'ai vu tel film, c'était super, moi je le fais aussi volontiers. Ça, c'est important. Après, une reconnaissance beaucoup plus large et générale, franchement, j'ai pas fait ça pour ça. Donc, puis ça me va très bien. J'aime cette. En plus, c'est marrant que vous utilisiez ce terme d'ombre parce que, comment dire, on le vit au jour le jour, l'ombre, puisque le mixage, ça se passe dans une salle qui ressemble à une salle de cinéma et qui est complètement dans le noir tout le temps. Et si c'était un aspect qui m'avait rebuté, j'aurais jamais fait ce métier. Non, ça me va très bien, moi. Ça me va très bien. Et ça me va très bien aussi que le son soit plus obscur, encore un terme qui est lourd de sens, soit plus obscur pour les gens, parce que ça permet de jouer avec et de faire des choses à leur insu, et ça fait partie aussi de la surprise du cinéma, c'est ça. Ce que les gens adorent, ils parlent de la magie du cinéma, mais ce terme de magie est employé parce qu'ils savent pas comment c'est fabriqué, et c'est très bien comme ça. Même si ils sont de plus en plus initiés, mais la plupart des choses, c'est de la vulgarisation. C'est pas les vraies coulisses, c'est parfois même un mixage. Quand quelqu'un vient en mixage, ça les amuse 2 secondes parce que de voir, il y a cet émerveillement de voir un film projeté sur un grand écran dans une salle. Mais au bout de 5 minutes, s'ils savent pas ce qu'on fait, ils sont chiés, mais comme des rats morts.
Ouais, ça a un impact assez inconscient sur le public, plus inconscient que l'image en tout
Ouais,
cas.
ouais, ouais. Ouais, certainement.
Ben, merci beaucoup
Il n'y a
Cyril
pas
pour
de
cet
quoi.
échange, c'était super intéressant et je vous
Ben,
souhaite
avec
une
plaisir.
très bonne continuation.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Merci.
Merci.
C'était Margot en compagnie de Cyril Holtz pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.